Nous parlions également de cette condition possible pour l'homme éveillé de se voir être au-delà des limites de la naissance et de la mort. C'est entre autres une théorie réincarnationniste. Alors, qu'est-ce que ça peut apporter une démarche réincarnationniste? Parce que s'il est vrai que l'on est amené à revivre plusieurs vies, mais que par le fait même l'on n'a pas conscience des vies antérieures, je veux dire que dans un premier temps, on pourrait se dire que la théorie réincarnationniste n'apporte pas grand-chose.
Bon, c'est une théorie, une doctrine qui a été admise à certaines époques de l'histoire, qui est admise encore aujourd'hui par les hindous et les bouddhistes avec des formulations différentes. Il y a le point de vue bouddhiste le plus élevé, puis il y a l'opinion commune du bouddhiste moyen. Disons qu'une grande part de l'humanité vit dans un climat culturel dans lequel l'idée des vies successives trouve sa place. Que de fois, parlant communément, des hindous ou des tibétains m'ont dit, nous nous sommes sûrement connus dans une vie antérieure pour avoir maintenant dans cette vie-ci des liens si forts. Je me souviens d'une phrase qui est frappante qu'une jeune hindoue, dans notre premier voyage en Inde, avait dit à mon épouse. Mon épouse lui a demandé, mais ça ne. Vous acceptez facilement cette vie de nonne, de service, de solitude? Elle a répondu, oh, toujours se marier, toujours avoir des enfants, toujours se marier, toujours avoir des enfants, ça suffit. Comme si elle avait passé 500 existences à se marier et avoir des enfants. Bon, nous avions vu d'abord une différence de contexte culturel. Alors, depuis quelques années, brusquement, la réincarnation qui ne concernait que quelques chercheurs ou quelques charlatans est devenue le sujet à la mode.
Pour les chercheurs et les charlatans.
Pour tout le monde, mais aussi pour beaucoup de psychiatres, notamment aux États-Unis, pour des journaux sérieux et même des journaux scientifiques. Et il y a un livre important qui vient d'être traduit en français, celui du professeur américain Ian Stevenson, qui a été publié en anglais depuis longtemps, 20 cas qui suggèrent la réincarnation. Bon, Ian Stevenson, en tant que scientifique, je crois, est assez indiscutable, et il a essayé de voir ce qui pouvait être vérifié dans des récits de personnes qui affirmaient se souvenir d'une existence précédente. Bon, ça, c'est un type de démarche. Maintenant, il y a aussi une autre démarche dans laquelle un travail sur l'inconscient peut ramener à la surface des souvenirs avec leur charge affective très forte, des souvenirs qui se trouvent être reproductibles, confirmés de jour en jour et qui par conséquent ne peuvent pas être considérés comme des rêveries et qui ont pour celui qui les retrouve un goût, une évidence, une certitude de déjà vécu. Bon, alors, j'ai rencontré beaucoup de psychiatres que ces questions intéressent. Certains sont convaincus qu'il ne peut y avoir que fantasmes, d'autres ayant suivi de près une anamnèse, si on peut dire, le retour à la surface de ces souvenirs dits de vie antérieure ont été au contraire très ébranlés, pour ne pas dire convaincus. Du point de vue de la psychologie de l'inconscient, ça peut avoir un intérêt et il arrive que des difficultés dans cette vie-ci, des malaises auxquels aucune psychothérapie classique n'a pu apporter de solution, soit résolu, dissipé par le retour à la conscience de souvenirs traumatisants, intenses, dits de vie antérieure. Bon, moi, j'ai souvent employé cette expression. Tout se passe comme si la doctrine des existences successives était véridique. En
Mais nous
fait,
sommes.
l'important, c'est la découverte fondamentale, la découverte de l'être essentiel, ici, maintenant, dans cette vie-ci.
Mais il y a deux théories réincarnationnistes différentes. Il y a celle qui fait que, bon, aujourd'hui, dans cette vie-ci, Je suis une femme pauvre dans la vie suivante, je suis un prince riche dans la vie suivante, etc., etc. C'est-à-dire qu'on se réincarne d'être humain en être humain. Mais il y a l'autre qui fait que l'on peut se réincarner en papillon, en colombe, en petit moineau ou en ver de terre.
Bon, si on lit un texte très important en Inde, mais assez invraisemblable pour nous, lecteurs occidentaux, qu'on appelle Manav Dharma Shastra, les lois de Manu en français, il y a des pages et des pages dans la ligne de ce que vous dites. Moi, je n'ai pas tiré au clair, je ne me préoccupais pas outre mesure de savoir s'il fallait les prendre au sérieux ou les considérer comme uniquement une manière de s'exprimer, c'est-à-dire un homme qui aura en lui une légèreté comme celle que nous attribuons au papillon, ou un homme qui aura en lui une férocité comme celle que nous attribuons au tigre. Les lois de Manu disent, avec beaucoup de détails, que si on a certains comportements dans cette existence, on se réincarnera en effet dans ces incarnations animales. Je ne me prononce pas à cet égard, je suis totalement agnostique. Ça n'a jamais joué un rôle important dans ma propre démarche.
Vous seriez éventuellement prêt, comme vous le disiez il y a quelques instants, si je vous ai bien compris, prêt à accepter que les théories réincarnationnistes pourraient n'être que des images utiles à un développement, mais qu'elles ne sont peut-être pas une certitude.
Ce n'est pas aisé d'expliquer autrement que par cette théorie cette présence, dans certains cas, si réelle et si importante, qui tient un si grand rôle dans la vie actuelle, de ces souvenirs anciens. Et puis alors, bon, avec des psychiatres, j'ai eu, je peux dire, la preuve, la certitude que des délires ont pu être guéris sans l'utilisation d'aucun des médicaments, assez remarquables d'ailleurs, qu'on utilise aujourd'hui, et que ce délire, c'était l'existence actuelle submergée par des souvenirs de vie antérieure. Et qu'en prenant au sérieux l'idée de la vie antérieure, en accompagnant le malade dans ses souvenirs, on est arrivé peu à peu à lui permettre de se
Et si vous...
dissocier, de se retrouver dans cette vie-ci. Et un des enseignements de ce genre d'expérience, c'est de nous pousser à chercher, mais alors qu'est-ce qui est vraiment fondamental dans la conscience d'être? Si je retrouve avec tant de force que j'ai été toute autre chose dans une autre existence, alors je ne peux plus croire complètement que dans cette existence-ci, je suis le professeur Intel, chef du service de gastro-entérologie d'un grand hôpital, ou que je suis premier danseur de l'opéra ou quoi que ce soit. Pourquoi est-ce que je suis plus ça que une autre forme que j'ai été dans une autre vie? Et quel est l'élément fondamental, l'élément central? Alors c'est ça cet élément fondamental, c'est ça l'être réel distribué dans des rôles aussi différents.
Je crois que les chemins de la connaissance, les chemins vers l'éveil, les chemins vers la sagesse sont des chemins dangereux aussi, non?
Tout est dangereux. C'est dangereux de faire de la montagne. Chaque été, il y a des morts dans
Mais
le
c'est au moins
massif du
aussi
Mont-Blanc.
dangereux.
Dangereux d'abord, il y a un premier danger qui est simplement de perdre son temps. C'est tout. Et sous prétexte de dépasser la conscience ordinaire, de s'y enfoncer encore plus en l'embellissant par un peu d'orgueil de yogi ou de vanité ou de
Un petit bâton
désir
dansant
de
après.
revanche, il peut y avoir des dangers de bigoterie, de crédulité, de faiblesse. Bon, et puis il y a quelques dangers psychologiques, c'est
Le
sûr. Si
pouvoir.
pour acquérir des pouvoirs, il faut se donner beaucoup plus de mal que l'occidental moyen n'est prêt à s'en donner ou capable de s'en donner. Mais il peut y avoir des dangers psychologiques, si on n'est pas prudent et si on n'est pas bien guidé, de perturbation. Finalement, d'être encore plus mal en point, encore plus mal dans sa peau qu'on l'était au départ.
Avec la folie au bout, enfin une certaine forme de folie peut-être.
Oui.
Ou de névrose plus forte.
De névrose plus forte ou de troubles qui relèvent de la psychiatrie. Oui, il y a des dangers.
C'est d'où la nécessité du maître.
D'où la nécessité du maître, mais en ne donnant pas au mot maître un sens magique, extraordinaire. La nécessité de quelqu'un qui a reçu vraiment une formation, qui est passé lui-même par des expériences, qui a mûri, qui sait de quoi il s'agit, qui peut comprendre, qui a été préparé pour ça. Il faut, combien d'années faut-il pour faire un chirurgien qui va opérer? Il a d'abord été étudiant, externe, interne. La nécessité d'un guide compétent. Mais ce qu'on peut dire, c'est que des sages qui ont un rayonnement mondial, il en existe 5-10 en Inde que les foules reconnaissent, vénèrent. Mais des maîtres spirituels dans cette Inde immense, des maîtres spirituels dignes de ce nom, qui sont vraiment non égoïstes, pleins d'amour, sans ambition personnelle, solides intérieurement, il en existe en Inde des milliers, inconnus, qu'on découvre.
Comme et pas ça. Uniquement qu'en Inde.
Je parle de l'Inde parce que c'est le pays où j'ai le plus longtemps séjourné, où j'ai fait le plus de recherches. Et c'est le pays dans lequel, au XXe siècle même, des Occidentaux ont affirmé avoir rencontré des êtres exceptionnels dont un seul regard avait changé leur vie.
Il n'y a pas une part de fantasme là-dedans.
Je reviendrai à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une question d'expérience personnelle, et le test de l'expérience personnelle, c'est est-ce que ce que j'ai ressenti est stable, durable, ou est-ce que c'est balayé par les chocs de l'existence? Est-ce que ça m'a transformé moi-même d'une manière qui me satisfasse vraiment? Vous savez, on me demande parfois, est-ce que vous-même vous avez atteint la sagesse? Est-ce que vous êtes, éveillé, libéré? Je dis toujours, je suis comme un malade guéri qui a eu des symptômes de maladie pendant des années, et puis ces symptômes ont disparu et ne reviennent plus. Alors ça représente avant tout une gratitude, un émerveillement. Bon, j'ai été malade autrefois, j'ai traîné 2 ans dans la tuberculose, entre les précures, le sanatorium et la postcure, à 24-25 ans. Donc j'aime bien cette image de longue maladie et de guérison. Nous sommes le premier à savoir si nous nous sentons guéris. Et même si les autres disaient « tes maux de tête et tes névralgies continuent », et celui qui a eu des maux de tête et des névralgies pendant toute sa vie et qui n'en a plus, il le sait bien. Maintenant, il arrive souvent que le progrès d'un disciple se voit aussi du dehors. Ça m'est arrivé de rencontrer un jeune swami en Inde et puis de le revoir 10 ans plus tard et d'être émerveillé par le changement qui s'était produit en lui, la qualité de sa présence, de son sourire, de sa simplicité.
En fait, l'expression dont la plupart des traditions parlent, ceux qui sont nés 2 fois... une expression à la limite fausse, c'est pas 2 fois, c'est 10 fois, 20 fois, 100 fois, 3000 fois. C'est changer tout le temps.
On peut l'entendre aussi comme ça. Je suis d'accord avec vous. Qui ont osé mourir et naître au lieu de se cramponner à une position acquise. Alors que la vie, elle continue, elle coule, que nous voulions nous cramponner ou non.
Ça ne se passe pas d'une façon aussi caricaturale à la limite qu'être né 2 fois... C'est-à-dire un jour, je passe de l'autre côté.
Généralement, il y a une préparation et puis un moment de maturation où un changement capital se produit, comme une bascule, c'est vrai, comme un éveil.
À une seconde précise.
Une illumination, oui, on peut dire à une seconde précise. Et puis après, il y a encore un travail à faire pour stabiliser, pour que tous les fonctionnements soient mis en harmonie avec cette révélation. Et cette révélation, c'est quelque chose qui casse, comme une corde qui aurait été usée jour après jour sur la margelle d'un puits. Et puis, un beau jour, quand le moment est venu, la corde casse. C'est une manière d'être qui pouvait être ressentie comme une prison, comme une servitude, et qui casse. Et ça apparaît, tous les témoignages sont très conformes à cet égard, ça apparaît comme un immense sentiment de liberté.